Puisqu'il a été question d'auteurs d'ouvrages et d'artistes, d'auteurs d'œuvres. Si c'est une autre déclinaison de la question de la création culturelle et du domaine public, mais ça se pose vraiment dans un terme tout à fait inverse, la question du journal. Ici, rapidement, puisque je voudrais surtout vous montrer nos journaux numérisés, c'est eux qui posent qui sont le cœur de la problématique pour nous, mais simplement rappeler que entre la Gazette du 17e, 18e siècle, ici c'est une Gazette du 17e, alors qu'est-ce qu'il y a ? On trouve des articles, on trouve des commentaires sur des faits essentiellement diplomatiques, économiques, militaires, non signés, c'est assez un style extrêmement monocorde, avec une diversification d'informations qui se fait progressivement. Là voilà, ici un journal des années 1830. On commence à diversifier les rubriques. La plupart des articles encore sont d'ailleurs anonymes et avec un commentaire qui est relativement, par les commentaires politiques, qui sont relativement faibles. La poursuite. En fait, finalement, le journal n'a pas arrêté de se transformer en termes de type d'information, diversité de l'information, présentation de l'information, le commentaire de l'information, et puis tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire progressivement le triomphe de l'image et de l'illustration. Ici, une dernière heure des années 1950, avec effectivement la question de l'exposition universelle, et donc déjà une manière de voir la manière dont le problème du droit d'auteur se pose dans ce genre d'œuvre. Vous n'avez pas un auteur ou deux auteurs, vous avez une multiplicité d'auteurs, aussi bien de textes que de dessins, de photographies, de caricatures, dont la plupart du temps, mais c'est une chose qui n'a jamais été vraiment étudiée scientifiquement, dont la plupart du temps, la signature, l'identification est à peu près impossible. Ici, Neil Dove, c'est fin du mois de juillet 1942. Donc en 2012, son œuvre tombe dans le domaine public et à partir de janvier 2013, c'est tout à fait officialisé. Ici, il est impossible de commencer et c'est un premier problème par rapport à la recherche diligente et l'identification du statut de l'œuvre. Et c'est tout à fait impossible dans la pratique à faire d'identifier les différents auteurs, soit cas classique, mais exceptionnel, l'article où l'œuvre est signée et l'auteur est identifiable. Émile Zola pour J'accuse, Georges Simenon dans les années 1921-22 dans la Gazette de Liège. Pour un auteur comme ça, vous en avez des centaines qui sont totalement non identifiables malgré le fait que l'article a été signé. Énormément d'œuvres signées sous pseudonyme ou par des initiales, qui sont tout simplement anonymes. Vous voyez, ici simplement pour montrer la poursuite du processus. J'ai perdu ma petite fiche. Avec le triomphe de l'image de plus en plus de la couleur également. Mais par contre, je ne sais pas si on la voit de l'autre côté. Mais donc j'ai perdu la fiche que j'avais mise pour vous montrer la publication d'un feuilleton également, puisque le journal a aussi toujours été, même s'il s'est diversifié, un terrain d'édition littéraire assez classique. Jusqu'à maintenant, voilà le journal tel qu'on le connaît actuellement, qui est extrêmement, premièrement, le nombre de pages a extraordinairement changé. De 4 au 19e siècle, on passe progressivement à 16, à 20, à 40. Une diversification extraordinaire des rubriques. Et alors, en matière d'identification, finalement, les choses ne changent pas fondamentalement. Vous avez quelques articles qui sont signés totalement identifiables. La plupart ne sont pas du tout signés. Entre-temps, évidemment, un certain nombre d'éditeurs de journaux ont réglé la question du droit d'auteur dans les contrats de travail de leurs journalistes. Où est Sandrine ? Ah, elle n'est pas. Non, ça, il faut pas, elle ne doit pas absolument être là. Mais ça reste encore une exception. Donc, il y a d'abord un vrai problème. Premier problème, l'ambiguïté des rapports entre éditeurs de presse et auteurs, journalistes. Le cas est particulier en plus pour les journalistes freelance, les photographes, les dessinateurs, les caricaturistes. Et le débat en Belgique n'est pas du tout réglé. J'en touche un tout petit mot quand je montrerai les journaux numérisés. Deuxième aspect. Et c'est là que, je dis, c'est à rebours de cette journée du domaine public, c'est que nous sommes obligés, de numériser des œuvres qui sont en fait dans une large mesure protégées par le droit d'auteur. Et on entre dans toute la problématique ici de la numérisation. Ici, vous y avez fait largement allusion par rapport au fait que vous numérisiez pour vous vos livres pour les avoir sur un autre support. Mais nous, la Bibliothèque royale, comme Bibliothèque nationale, a une mission de préservation à long terme et une mission de mise à disposition du public dans les meilleures conditions. Ces missions ne sont pas toujours faciles à, comment dirais-je, à harmoniser, parce que spécialement dans le cas du papier journal pour des raisons techniques, et alors là je vais sortir la grosse artillerie, voilà une... Voilà du fait de la fragilité fondamentale du support papier. C'est des papiers, ici à partir des années 1850, pas de bois, chloré pour assurer aussi une certaine blancheur. Et le résultat, c'est qu'une fois produit, à peine sorti de presse, le papier commence à s'oxyder, à s'acidifier. Et au bout de quelques décennies, voilà ce que ça vous donne. Donc la pratique, c'est ceci. Donc, c'est vraiment ceci. C'est pas du patrimoine de la Bibliothèque royale, ça. Je précise. Mais alors, ça nous amène à ce qui est la quadrature du cercle par rapport à la préservation et la mise à disposition du public. C'est protégé. Pouvons-nous numériser ? Première question. Quelles sont les conditions de mise en accès pour le public ? Alors, est-ce qu'on peut numériser la Bibliothèque royale comme Bibliothèque nationale peut numériser absolument tout ce qu'elle souhaite, quel que soit le type de document, quel que soit son statut juridique et quelle que soit sa date d'édition. Par exemple, si il prenait à Frédéric et à son unité de numériser la dernière monographie belge parue la semaine passée ou n'importe quel journal paru ce matin, c'est tout à fait, il n'y a pas de limitation, de restriction d'aucune sorte. Par contre, je vous propose juste de faire un saut. Vous voulez le numériser, vous voyez le résultat après. Voilà une page de quotidien belge numérisé. Donc on a eu les moyens, d'une part dans le cadre de projets bilatéraux, d'autre part dans le cadre d'un programme qui a été cofinancé par la politique scientifique fédérale, de numériser ces documents qui étaient considérés comme prioritaires du fait, vous venez de voir, la dégradation, l'acidification, l'autodestruction, de les numériser par priorité. Au bout de 5 ans, on a numérisé environ 3 500 000 pages, provenant d'environ 45 quotidiens belges différents, pour la période qui est une période logique que nous avons choisie, 1831, la création de la Belgique indépendante, à 1950. D'une part, ça nous fait une période critique de 120 ans, c'est un corpus historique déjà tout à fait scientifique, tout à fait pertinent. D'autre part, on pensait limiter les ennuis avec les auteurs et avec les éditeurs. Le résultat, d'une part, le but de préservation est atteint. Voici quarantaine de quotidiens qui, pour une période maximale de 120 ans, pour un total de... Oui, in order. 3 500 000 pages sont préservées à tout jamais. Dans le cas de la même opération, vous se posez la question, ne serait-il pas opportun de profiter de la numérisation pour ajouter une valeur par la reconnaissance optique de caractère, l'OCR, qui permet évidemment une exploitation radicalement différente des contenus de ces journaux. Jusque-là, tout se passe bien, tout le monde est content. Petit à petit, les sociétés d'auteurs et les éditeurs commencent à nous tomber dessus en disant « Pourquoi vous numérisez des journaux ?» Donc la première question a été de dire « C'est dans nos missions légales et quasiment dans nos obligations si l'on veut respecter nos buts de préservation, pourquoi, puis les sociétés, ça c'était les éditeurs, puis c'était les auteurs qui sont venus. Pourquoi vous, et vous devez nous payer. On dit, pourquoi on devrait vous payer? On a utilisé de l'argent public pour préserver ces documents et en améliorer l'exploitation de la consultation, donc il n'y a aucune raison de... Ah non. Et donc depuis 4-5 ans, on est dans ce débat irrésolu et fondamental, j'en discute très régulièrement maintenant avec Mme Dussolier, mais ainsi qu'avec tous les acteurs du système, où les institutions patrimoniales et voilà, sont obligées, parce que c'est leur mission et leurs obligations et leurs priorités, de numériser des contenus à la fois extrêmement fragilisés, mais qui, dans le cadre de la législation sur le droit d'auteur, sont encore tout à fait intégralement protégés. Concrètement, ici, ce corpus de 3 500 000 pages numérisées et océrisées n'est consultable, jusqu'à nouvel ordre, que dans l'enceinte de la Bibliothèque royale, au moyen de terminaux spéciaux. Donc vous n'avez ni imprimante, ni port USB, ni connexion à Internet pour faire des choses. Non, tout a été bien, effectivement. Et avec l'ultime, évidemment, l'ultime paradoxe, que ça nous vaut de l'étranger, comme de la part de nos partenaires des communautés flamandes et françaises, des universités, des étudiants, toute une série de plaintes en disant quel scandale. Donc voilà, nous respectons le droit d'auteur parce que comme institution scientifique fédérale publique, c'est bien la moindre de nos exigences. Nous nous trouvons par contre dans une situation tout à fait absurde où au nom de la création culturelle et du droit, du respect intégral du droit d'auteur, nous payons avec de l'argent, nous avons dépensé des sommes folles dans l'argent public pour finalement maintenir ici au monde des arts pareil corpus. Donc voilà, mais la problématique est très large, mais ça permet d'illustrer l'autre versant par rapport au domaine public, puisque ici on est vraiment dans une véritable impasse. Voilà. Désolé, c'était court, rapide, mais... Ah voilà, Cléo qui manifeste son contentement que l'explication ait pris fin. À grand plaisir.
Vous expliquez comment vous avez, par rapport à l'exposé de Michael.
Ici, we had une bepaalde période, une deadline, un jaar. Un bepaalde budget, une masse, on avait une période maximale d'un an, ça c'est l'attribution.
Pour 120 ans d'articles.
Oui, tout à fait. Pour 3 millions, on avait un an, on avait un budget qui n'était pas gigantesque, quasiment rikiki, et nous avions une obligation de masse critique, au moins une quarantaine de titres, au moins 2 millions de pages, 1 million et demi. Donc la seule manière, c'était de procéder par la sous-traitance, l'externalisation. Attention, un projet de numérisation en sous-traitance, vous ne sous-traitez qu'une partie. Hein. La numérisation, vous allez dire, c'est fondamental, et le CR. Par contre, la sélection scientifique des titres pertinents, ça se fait évidemment par l'institution. La gestion du projet... La gestion quotidienne et globale du projet, les faits, l'expérience a montré que c'est l'institution publique. Vous avez des opérateurs privés qui vous disent ah, vous allez voir, nous on est du privé, on est vraiment efficace. Vous êtes des petits fonctionnaires, rien du tout, fédéraux en plus. 15 jours plus tard, c'est pas tout à fait la même chose que la chose qui se passe. On se rend compte qu'ils n'ont pas les scanners pour numériser des grands formats. Quand en matière de cropping, c'est une catastrophe. Ici, Michael, les journaux, celui que j'ai montré, c'est 90%. Des journaux à numériser. On n'est pas dans une monographie avec une bonne reliure, un papier suffisamment grammé et tout et tout, et une unité, une cohérence intellectuelle. On est là dans des choses extrêmement fragilisées où vous avez des pliures, des trous, des pages manquantes et avec cette multitude d'articles différents. Donc une partie a été dans des circonstances calamiteuse, je me dis, ça devait être un an, ça a pris 5 ans. Les lots livrés ont été refusés 4 fois, jusqu'à un refus global. Mais alors, il faut négocier, en espérant quand même que le prestataire privé ne décide pas d'arrêter en disant, bon, on vous paye des indemnités et on se libère. Donc, il faut rester quand même dans un cadre, un contexte de négociation. Le contrôle qualité s'est avéré absolument fondamental. Et puis, à charge, et donc, d'autant plus que ça a amené à des refus de validation à plusieurs reprises, parce qu'ici, le but, par rapport à la démarche de Michael, est pas seulement de transférer l'information sur un autre support qui est plus pratique et tout, et réduire éventuellement sa bibliothèque. C'est les générations futures, d'une part, faire en sorte que les journaux continuent à se dégrader, faire en sorte que les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants de Cléo pourront encore les consulter à des fins quelconques de recherche scientifique, et ça dépasse de très loin l'histoire. Et puis il y a l'éditorialisation, la question du stockage, la question de la préservation à long terme des fichiers numérisés, et puis, in fine, toute la question du droit d'auteur et de la mise en ligne. Voilà. Une petite question pour voir rebondir. Merci.